Hello à tous, c'est Marie Misset. Je vous parle évidemment depuis mon propre lieu de confinement, c'est-à-dire mon appartement à Paris. Alors vous vous en doutez, vieille branche, ça va s'arrêter un petit peu, quelque temps, parce qu'il faut qu'on prenne soin de nous tous collectivement. Ce dernier épisode, il a été enregistré avant que le coronavirus fasse une entrée assez fracassante dans nos vies. Je me rappelle, je suis arrivée un petit peu en retard. Je m'étais perdue derrière la gare de l'Est. Geneviève Fraisse s'en fichait complètement que je sois en retard. On a parlé de ses plantes avant de commencer l'interview. On a parlé de l'origine de son nom de famille. C'était un vrai petit joli moment, comme il y en aura beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je pense à elle, je pense à vous tous aussi. J'espère à très vite. En attendant, j'ai des épisodes un peu doudous à vous conseiller. Pas nécessairement mes préférés, mais ceux qui m'aident bien, ceux qui m'aident de bonne humeur. Il y a l'épisode précédent avec Eva Rouge-Paul pour apprendre l'ici et le maintenant. Celui avec Henri Dès pour de la légèreté ou avec Dave pour rigoler un peu. Ceux avec Chantal Thomas ou Guy Atelier pour s'évader un peu. Et puis avec Eva Joly pour une petite leçon de courage. Je vous souhaite de réussir à profiter parfois de ce moment très bizarre qu'on vit à la fois tous ensemble et tous séparés, d'y trouver des choses inattendues ou simplement de le supporter à peu près correctement. À très bientôt.
Une gamine, si elle est violée par Polanski, elle savait ce qu'elle faisait, donc c'est pas grave. Mais si une gamine de 16 ans, Greta Thunberg, pense le monde, là, c'est une gamine. Donc on est enfant si on fait de la politique, mais on est adulte si c'est pour se faire sauter.
Pour cet épisode de Vieille Branche, je suis allée chez la philosophe Geneviève Fraisse. Dans son appartement, entre ses plantes et ses livres, elle nous a accueillis très chaleureusement et on a très vite parlé de ses amis. Parce qu'au fur et à mesure de ces entretiens, je me rends compte qu'avec Vieille Branche, je rencontre aussi une pensée française en mouvement, dont les têtes pensantes se sont croisées, ont collaboré, ont fait ensemble l'évolution de la pensée sur des sujets qui agitent beaucoup notre société contemporaine. C'est ainsi que Geneviève Fraisse, grande penseuse du féminisme, a longtemps travaillé avec Jacques Rancière, rencontré l'année dernière, ou Étienne Balibar, interviewé il y a quelques semaines. Mais je retrouve aussi dans ses cheminements les vies de Cathy Bernheim ou de Suzette Robichon. J'aime beaucoup ça dans Vieille Branche, comprendre comment fonctionnaient ces galaxies et ces chapelles de penseurs. Et puis souvent, c'est vrai que ça nous permet une porte d'entrée chez les uns et chez les autres. Quant à Geneviève Fraisse, j'ai vite compris qu'il y a des sujets où on avance à tâtons et d'autres où on peut s'engouffrer sans gêne. Je vous laisse découvrir ça.
Mais du coup, parlez aussi de votre rapport à l'histoire dans la philosophie. Puisque
bah, c'est compliqué ça, c'est de Foucault, en passant par Rancière, tous quoi. Oui, tout, bien sûr.
Le parler du fait que c'est un objet fragile, votre objet d'étude.
Ah ben, oui.
On vous soupçonne toujours de militantisme.
Oui, ou que je sois historienne et pas philosophe, mais si c'est les deux choses. Il y a un, je suis militante, deux, je suis historienne, mais philosophe, non. Ah. Pas possible. Pas le féminisme dans la philosophie.
Voilà,
ça
donc
ça se fait pas, ça.
Et non, on n'aime surtout pas le penser comme un à côté, quoi. Enfin, on aime
oh, oui. C'est drôle parce qu'à RFI, ils m'ont sorti un extrait de Foucault qui dit, ben non, moi, le titre philosophe, bof, bof, bof. Alors du coup, moi, je rebondis en disant, c'est un homme, il peut dire bof, bof, bof. Les femmes, il faut qu'elles disent, si, je suis philosophe.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille Branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je suis encore désirable.
Évidemment, c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche!
Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je suis Marie Misset et aujourd'hui, je suis dans le salon de Geneviève Fraisse. Bonjour Geneviève Fraisse. Vous êtes philosophe. Oui. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous avez consacré votre vie, ou du moins votre œuvre, à faire du féminisme, de la sexuation du monde, et j'utilise ici vos termes, un objet philosophique, un objet de pensée. Vous avez, excusez-moi de la familiarité de l'expression, soulevé un lièvre en pensant un impensé de la philosophie, un objet d'étude très fragile. C'est comme ouvrir une perspective, non pas à côté de la philosophie, mais à l'intérieur de la philosophie. Vous êtes aussi passé de la théorie à la pratique en devenant en 97 délégué interministériel aux droits des femmes, puis député au Parlement européen entre 99 et 2004. Votre pensée, elle questionne plus qu'elle ne donne de réponse. Vous répandez là où vous passez des petites lumières pour aider à penser. Vous êtes, selon vos propres mots, une colporteuse. Mais avant de colporter, il a bien fallu travailler, apprendre, grandir. Geneviève Fraisse, quels sont vos tout premiers souvenirs? Quand est-ce que vous situez le début de votre vie?
Dans le jardin qui était un parc de mon enfance, c'est-à-dire dehors. Parce que, oui, ça s'appelle les murs blancs, donc c'est entouré de murs, mais les appartements sont aussi des lieux clos, donc il reste, je sais pas, grimper dans les arbres et faire de la balançoire au fond de ce parc. Donc c'est effectivement là plutôt le mouvement dans la nature, voilà.
Vous avez grandi, vous venez de le dire, dans les murs blancs, aux murs blancs, dans un environnement qui peut être un nid à fantasmes pour les intellectuels. Les murs blancs, une propriété à Châtenay-Malabry, achetée en 1939 par le philosophe Emmanuel Mounier, qui était le fondateur, entre autres, de la revue Esprit. C'était d'abord un projet éducatif, je crois que ça a un périclité un peu pendant la guerre, ce projet, et finalement c'est devenu une sorte de communauté d'intellectuels qui vivaient ensemble, dont vos parents, Paul et Simone Fraisse, mais aussi Paul Ricoeur, ou encore, donc évidemment, Emmanuel Mounier.
Oui, vous avez raison de rappeler le côté un peu occasionnel de l'habitation de ce lieu. C'est-à-dire que, d'ailleurs, mon père Paul Fraisse était très proche d'Emmanuel Mounier au moment où ils ont eu ce projet éducatif. C'est curieux, moi, cette idée des chrétiens qui veulent absolument éduquer... éduquer les enfants. Et puis la guerre est arrivée, et évidemment la suite de la guerre, c'est que ces jeunes familles, parce que ça a été la plupart des jeunes familles, à part la famille Marou, où ils étaient plus anciens, et la famille Ricoeur qui est arrivée plus tard, ces familles, c'est au moment où ils vont faire famille et faire des enfants d'ailleurs, puisque nous serons pour la plupart des enfants donc des baby-boomers.
Soit de la guerre, soit du juste après-guerre.
Bah surtout de juste après-guerre, beaucoup. Les Domnac, les Fraisse, Mounier, Baboulène, il y en avait d'avant-guerre, mais surtout d'après-guerre, oui.
Mais c'était un lieu joyeux?
Pardon?
Est-ce que c'était un lieu joyeux?
Non.
Non. Parce que comme ça, une vie communautaire avec plusieurs enfants, on peut avoir l'impression...
On passe à autre chose.
Très bien, d'accord. C'était un lieu collectif, je dis juste ça, où les enfants n'étaient peut-être pas vus dans leur individualité, dans leur singularité.
Disons, j'étais pas au bon endroit parce que j'étais la troisième enfant en 3 ans dans une famille. Donc les baby-boomers, il faut être au bon endroit. Il y en a qui sont au mauvais endroit parce qu'ils arrivent comme ça, c'est une usine à bébés, hein, le baby-boom. On en fait, ils ont eu beaucoup de chance, etc., etc. C'est d'abord une usine à bébés où les bébés pleuvent comme ça. Il faut être au bon endroit. C'est parce que il y a pas de société de consommation, il y a pas de machine à laver, il y a pas de choses pour aider les parents et notamment les mères de famille à s'occuper de cette flopée d'enfants qui arrivent comme ça. Dans une succession un peu très rapide.
Un peu erratique.
Non, très rapide. Donc ça ne fait pas... Bon, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus depuis. C'est important de le dire. C'est effectivement, le baby-boom, c'est une usine à bébés. Mmh. Après, il faut être au bon endroit. Je le répète.
En tout cas, je vais terminer là-dessus sur ce lieu. C'est le lieu de vos premiers questionnements, de vos premières questions. Vous voyez votre mère qui travaille, mais c'est une des rares à travailler dans la communauté que vous fermez. Elle était formée, elle était professeure de lettres. Et puis vous voyez, donc les autres femmes qui ne travaillent pas. Pourtant, on les dit les égales de l'homme. En tout cas, ça vous interroge jeune.
C'est pas, je pense pas que ça m'interroge. Ça m'interrogera après coup.
Plus tard.
Ça m'interrogera après coup. Donc ça veut dire que je l'ai bien. Il y avait aussi Nicole Domnac qui était aussi elle professeure, même si elle n'était pas dans les mêmes sphères pour la suite de l'histoire que ma mère, qui finira professeure d'université à la Sorbonne. Mais je ne pense pas que sur le moment ça m'ait interrogée parce que. Il y avait du pour et du contre. Mais vous savez, il n'y a pas que ça qui vient après coup. Moi, par exemple, quand je suis abstentionniste après 68 par rapport aux élections, puisqu'on criait élection piège à con, j'avais pas l'idée que ma mère avait voté à 30 ans passés, qu'elle avait eu le droit de vote à la sortie de la guerre, etc. Donc j'ai pas eu cette mise en perspective historique. Elle est venue après coup.
D'accord.
Donc c'est intéressant. Donc et ma mère ne m'a jamais dit, dis donc, pourquoi tu ne vas pas voter alors que je viens à peine
d'avoir le droit de vote.
Enfin, ou que j'ai eu si tard le droit de vote. Non.
Vous en discutiez pas tellement de la place de la femme, de la sienne, de la vôtre.
J'en sais rien. C'est plutôt moi qui ai amené le féminisme à la maison. quand, enfin, j'étais déjà partie, mais qu'il ait amené. Mais en même temps, c'était drôle parce qu'elle avait, donc j'ai toutes les collections Princeps de Simone de Beauvoir parce qu'elle les avait évidemment en tant qu'elle était professeure de lettres aussi. Et puis, elle m'avait un jour montré de Suzanne Lillard, qui est une philosophe belge et qui critiquait l'existentialisme, Le malentendu du deuxième sexe, qui est un livre des années 60. Donc je me souviens que j'ai dans ma bibliothèque, bien sûr, que j'ai conservé. Et non, la bibliothèque féministe, elle est au fond de l'appartement. Elle est pas dans cette pièce-là. Elle est planquée pour être sûre que personne n'y touche. Là, il y a des regards qui se perdent.
Donc, il y avait la littérature tout de même. C'est ce que vous dites. Elle oui, vous avait présenté le...
Oui, mais pas le féminisme. Non. Même si effectivement, je me souviens qu'elle avait bien, tous les livres de Simone de Beauvoir, mais il n'y avait pas que ça qu'elle achetait.
Alors, le grand tournant, c'est 1968. 1968, vous commencez votre livre Féminisme et philosophie, ouvrage qui vient de paraître en poche chez Folio, et vous dites, avec 1968, en disant à quel point c'est un point de départ, de bouleversement.
Ben, je crois que 68 est pas du tout, pas uniquement pour moi, mais pour beaucoup de ma génération. 68 a été non pas seulement une rupture, mais ce que nous attendions. Ce que nous attendions, c'est-à-dire il y avait
bon, un
y
avènement. Avait,
on était dans les guerres d'indépendance, Algérie, dans la guerre contre le Vietnam aussi, mobilisation contre la guerre du Vietnam. C'est très pour moi 68 commence en fait avec la mobilisation. Donc on est dans cette disons de 60 à 70 qui sont toute mon adolescence et on est dans ces mobilisations contre la colonisation. Et mais il y a quelque chose qui fonctionne pas bien pour nous. Donc en fait, 68 nous arrive comme quelque chose dont nous avions besoin. Je dis nous et pas seulement je. Et moi, pour moi, c'est une évidence. Quoi. C'est une évidence que c'est tout ce que je voulais. Effectivement, tous les murs qui s'abattent, qui tombent.
Les murs blancs qui tombent, ou jaunes.
Oui, ils étaient déjà tombés, mais qui tombent. Et puis surtout, la possibilité d'aller dans des tas de directions.
Et pour le coup, c'était joyeux.
Puis bon, moi, j'avais la chance. J'étais étudiante en philosophie à Sancier-Sorbonne, donc j'avais la chance de passer de Sancier à la cour de la Sorbonne tout 68. Donc j'étais
au centre.
J'étais bien placée pour absorber tout ce que j'avais comme ça, tout ce qui m'intéressait.
Mais les femmes et le mouvement de libération des femmes, par exemple, n'arrivent pas avant 1970.
Oui.
Pendant deux ans, est-ce que vous avez...
Alors, il y a déjà des choses qui existent, hein, ce qui est dit. Effectivement, aussi bien pendant 68, très légèrement, mais on ne le voit pas. Et je suis bien placée pour le dire, puisque j'étais à la Sorbonne. Mais en revanche, on sait aussi que dans les années 60, vous avez Colette Audry, vous avez Edith Thomas. Toutes ces femmes font l'une une collection chez de Noël Gontier, l'autre des livres sur l'histoire des féministes du 19e siècle. Donc, en fait, il y avait des femmes présentes dans l'histoire intellectuelle. Mais Yvette Roudy, qui était aussi déjà... mais ça ne donne pas...
Un mouvement.
Ça ne donne pas un mouvement. Le mouvement naît après 70, oui, c'est clair.
Et là, vous avez aussi d'autres questions qui viennent guider toute votre pensée. Après, en voyant arriver les premiers slogans des féministes, notamment l'hymne du MLF,
qui sommes sans passé.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, libération des femmes, année zéro. Et ça vous interroge, je ne me trompe pas, ça vous interroge sur le coup.
C'est compliqué, tous les choses. En fait, ce n'est pas que ça m'interroge en soi, c'est que ça rencontre d'autres choses. Comment dire, ça rencontre d'abord le fait que la philosophie ne m'apprend rien sur ces questions-là. Ça, ça va être ce qu'on peut appeler un traumatisme intellectuel, quoi. Donc là, il y a un manque en philosophie incompréhensible. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on comprend rapidement quand même que, par exemple, dans le marxisme, il y a eu des pensées d'émancipation et d'émancipation des femmes. Je sais pas, les femmes et le socialisme de Bebel, etc. Quand même. Donc ça, c'est dans le militantisme marxiste. Et puis, il y a le nous qui sommes sans passé. Donc, il y a quelque chose qui cloche.
Et d'ailleurs, vous allez chercher ailleurs que dans la philosophie, puisque dans la philosophie, non seulement c'est un impensé, mais c'est presque plus que ça. Mais en attendant, vous réparez un petit peu un impensé, ou en tout cas, vous allez, comme vous le cherchez, vous dites, chercher un corpus de texte, vous faites un peu de la couture presque. pour parler de du féminisme en philosophie. Je ne sais pas si ça vous va. De,
non, mais regardez quand Michel Foucault. Non, mais quand Michel Foucault veut écrire sur les prisons, regardez les textes qu'il est allé chercher. Donc, je crois que c'est.
Oui, c'était un mouvement.
Regardez Jacques Rancière quand il a voulu parler des ouvriers. Après l'althusserisme et la leçon d'Althusser. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire tous les ouvriers saint-simoniens des années 1830. Donc, on va chercher là où ça pense. Et là où ça pense, bah, c'est peut-être pas dans les grands textes de philosophie, mais les imbéciles, ouvriers, exilés, femmes, etc., peut-être qu'ils pensent aussi.
Vous découvrez, par exemple, vous ne le saviez pas avant qu'en 1848, il y avait eu un véritable.
Non, je ne le sais pas. C'est la bibliothécaire de la bibliothèque, la conservatrice de la bibliothèque Marguerite Durand, qui à l'époque, cette bibliothèque ne se situe plus, pas maintenant comme dans le 13e arrondissement, mais dans la mairie du 5e arrondissement, en face du Panthéon, donc des grands hommes. On a cette bibliothèque. Donc moi, je découvre effectivement l'existence de cette bibliothèque. Et dès que je suis en stage, donc c'est l'automne 73, où je suis en stage de prof de philo, je vais foncer littéralement. Et c'est elle qui me met sur cette piste-là. Elle me donne deux pistes. Elle me donne Clémence Royer. Mais Clémence Royer, elle n'est pas assez à gauche pour moi. Plus tard, je m'en occuperai quand je rentre au CNRS. Comme je dis, pour lui rendre hommage, parce que ça vaut la peine de rendre hommage à une autodidacte aussi téméraire qu'elle a été au 19e. Mais là, elle me propose une autre piste, qui est celle de lire un peu quelques textes de la fin du 19e, qui traite de l'histoire du 19e, et je tombe tout de suite sur les femmes de la Révolution de 48, et je découvre qu'elles ont fait un journal quasi quotidien, quand nous, en 68, on n'avait rien fait. Mmh. Et ça me fait un choc. Non pas que je trouvais qu'on avait été des imbéciles en 68, je dois tant à 68, mais que 48 avait réussi à ce qu'il y ait un quasi quotidien. Donc j'ai étudié, lu ligne à ligne, et donc ça a donné mon premier article dans le numéro 1 des Révoltes logiques.
Mais c'est comme si les lignes étaient constamment coupées, en fait, et qu'on avait parfois... une figure Olympe de gauche qui sort.
C'est pour ça que je propose désormais le terme de lignée. C'est-à-dire la lignée, c'est pas l'histoire des héroïnes comme on fait tant et tant. Je suis pas contre, hein. Je veux bien. C'est ce qu'on a, rendre visible les héroïnes du passé, les femmes qui ont fait des choses formidables. Mais moi, avec l'idée de lignée, je veux dire autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se suivent.
Alors, on n'est pas des îlots historiques.
Et puis on crée ses propres lignées. Moi, j'en ai plusieurs de lignées. J'en ai une qui chez les intellectuels qui va de Madame de Staël à Simone de Beauvoir en passant par Virginia Woolf, mais j'en ai une autre d'Olympe de Gouges à Julie Daubier, la première bachelière, à Hubertine Auclert ou d'autres encore. Donc j'ai plusieurs lignées suivant le signifiant, la signifiance, si je peux me permettre ce terme-là, la signifiance que je cherche. Donc c'est pas, oui, comme vous dites, des lignes brisées, bien sûr, elles ont été brisées, mais sachez qu'à la fin des années 70, personne ne parlait de l'homme de gauche. Moi, j'ai commencé à la mettre dans mes textes à la fin des années 70, mais on était quelques isolés à faire ça. Et puis, mais c'était vrai aussi. Sachez que Camille Claudel n'existait pas en 1975. Elle naît à l'histoire et à la représentation de l'histoire à la fin des années 70. Il faut, donc c'est des, donc ça c'est très bien de faire ça, mais en même temps, il faut pas le faire sur le mode de vive les héroïnes, ce qui est une façon de déshistoriciser,
de présenter les choses comme exceptionnelles et
bien sûr, comme... et comme éventuellement presque hors de l'histoire.
Hors commun, hors de l'histoire.
Hors du commun, oui. Alors qu'il faut les remettre dans le commun. Et puis voir comment ça bouge de l'une à l'autre.
Vous avez senti au moment où vous vous engouffriez dans cet objet d'étude que ce serait difficile. Je crois que Roland Barthes vous a écrit en vous disant que vous alliez être bien seul dans cette histoire.
J'ai retrouvé cette lettre au moment de son centenaire, là, il y a quelques années. J'ai retrouvé sa lettre. Oui, parce qu'en fait, je suis allée voir les anciens althusseriens, les post-althusseriens en 73, quand je me suis retrouvée un peu libre de mon temps. C'est après avoir passé, donc je suis certifiée bien-admissible à l'agrégation. Évidemment, le président de l'agrégation avait dit, mais faut qu'elle se présente une troisième fois. J'avais dit, jamais de la vie, moi j'ai autre chose à faire. Je suis bien-admissible, très bien, ça me permet d'être... Je suis prof de philo, tout va bien, je suis en stage, et là j'ai filé, voir enfin des choses intéressantes, quoi. Donc il y avait... Donc je me suis dit, est-ce que je vais au séminaire de Roland Barthes? Donc je prends rendez-vous avec lui. Est-ce que je vais voir les post-althusseriens? Beaucoup sont à Vincennes, donc je vais à Vincennes. Et Roland Barthes, il me regarde avec beaucoup d'intérêt. Et puis en fait, évidemment, mes questions ne l'intéressent pas. Et après, il m'écrirait un petit mot me disant non, je ne vous prends pas dans mon séminaire parce que Bon, c'est pas, en gros, il dit pas, c'est pas mon sujet, mais vous serez bien seul.
Vous allez être seul. Il vous a promis bon. La solitude.
Ben, je pense, il y a un Bartien qui m'a dit, il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, il devait parler de lui quand il décrivait ça à la gamine que j'étais.
Le féminisme comme objet de savoir, comme objet philosophique et pas seulement historique, parce qu'on l'a dit, vous êtes allé chercher un petit peu partout des corpus historiques. Alors, on a pu vous traiter d'historienne parfois, ce que vous prenez pas forcément mal, mais ce qui n'est pas votre métier.
C'est cela.
Ça reste un objet très, très fragile encore aujourd'hui.
Alors, oui, c'est fragile. Alors, d'abord, du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les historiennes, de la fin des années 70 au milieu des années 90, avec une série de participations à des livres collectifs jusqu'à l'histoire des femmes et la co-direction avec Michel Perrault du volume 4 de l'histoire des femmes. Mais un peu, c'était pas si difficile, puisque Michel Foucault était aussi aimé de certaines historiennes, et notamment d'Arlette Farge, de Michel Perrault, etc. Donc, ça pouvait aller de soi. Finalement, ça n'allait pas tant que ça de soi, parce que la question du féminisme, finalement, n'était peut-être pas la bonne question en histoire, puisque c'était plutôt l'histoire des mentalités, l'histoire ouvrière, l'histoire orale, j'en parlais à l'instant, l'histoire sociale, etc. Le féminisme est resté encore un objet très fragile dans les années 80-90, dans la discipline historique aussi. Plus maintenant, plus au XXIe siècle.
Mais est-ce que aujourd'hui, quand on vous invite à participer à des colloques, à participer à des tables rondes, est-ce qu'on vous présente comme militante ou comme philosophe ?
Alors, c'est très compliqué parce que sur la question du féminisme, je viens de l'aborder brièvement, il y a toujours une contestation intellectuelle. De toute façon, mes rapports CNRS sont terribles. Et j'ai eu des blocages dans les promotions, parce qu'on disait, alors c'est la formule que j'emploie tout le temps, mais c'est la formule d'un des rapports, je les garde précieusement.
Où est cette pièce secrète avec votre bibliothèque féministe ?
Il y en a plusieurs pièces
secrètes. Toutes les lettres qu'on vous a jamais écrites.
Il y en a plusieurs. Et qui disait, oui, elle écrit beaucoup. Ça les énerve, hein, parce que je publie. Elle voyage beaucoup. Ben oui, c'est vrai, à une époque, j'ai énormément voyagé. Mais ça serait pas un peu militant, ce qu'elle fait? Et là... Donc, paf, non, on ne la promouvera pas. Donc, ils ont fait ça, mais il n'y a pas que l'institution universitaire. Ça, je le raconte d'ailleurs dans un entretien qui a été publié par le bulletin du CNRS l'année dernière. Donc, il n'y a rien de caché dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est avéré encore aujourd'hui. Hein. Ça continue. J'ai un ami l'autre jour qui m'a dit « Mais dis donc, j'ai vu ton livre, là, La suite de l'histoire. Mais il est à la librairie de Centre Pompidou. » Ah ben alors toi, une féministe, c'est pas la librairie du Centre Pompidou, c'est au fond d'une impasse dans une librairie militante. Un très bon ami, hein. Mais il ne revenait pas que mon livre se trouve sur les présentoirs de la librairie. Ça, c'est en 2019.
Et pas de colère vis-à-vis de ça, pas de...
Ah ben j'ai appris à pas me mettre en colère, mais peut-être que la colère va venir.
C'est un apprentissage.
Mais c'est vrai que j'ai dû, comme vous le disiez très très finement, je m'étais toujours philosophe, historienne de la pensée féministe. Mais à ce moment-là, je devenais historienne des femmes, historienne. Mais bon, alors j'ai regardé sur Wikipédia. Donc je vous présente comme historienne. Je dis, vous avez pas vu le premier terme, il y a marqué. Donc il y a un blocage pour dire que ça fait de la philosophie. Et ça, bon, maintenant je le dis. Non, pendant des années j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais je pourrais en raconter des anecdotes à n'en plus finir. Il y a de la disqualification du sexisme en permanence là-dessus. C'est clair, c'est avéré, c'est répété. Il y a des moments où je l'ai plus ou moins pris, bien. J'ai supprimé le mot historienne récemment parce que c'est devenu insupportable que les gens puissent pas
accepter que ce soit de la philosophie,
que je pose une question philosophique. Donc c'est malgré moi que j'ai enlevé le mot historienne, parce que j'ai tellement travaillé avec les historiennes et j'ai aussi, mais je suis pas une vraie historienne, ça c'est clair, j'ai pas de formation,
pas
aucune
démarche,
etc.
Vous avez une démarche de philosophe.
Mais on pourrait dire que je suis une historienne des idées, comme était ma propre mère d'ailleurs. En tant que littéraire, c'était une historienne des idées quand on sait sur quoi elle travaillait, Peggy, Simone Veil, la philosophe, etc. Mais c'est devenu impossible parce qu'il y a un blocage. Et il joue de toutes les façons. Alors ça peut être chez un éditeur, ça peut être au CNRS, ça peut être chez un journaliste, une journaliste. Enfin, ça dépend, tout public. Il y a deux choses qui comptent, c'est un, que je sois historienne, deux, que j'ai été députée. Le reste, on s'en fout. que j'ai écrit des livres et qu'est-ce qu'il y a dans mes livres, finalement, ça n'a pas grande importance. Ça, je pense que les hommes ne le vivent pas comme je suis obligée de le vivre. Donc, oui, la plupart du temps, on essaye quand même de garder le sourire ou de rester sage. Et puis, parfois, non.
Parfois, ça bouillonne.
Mais, disons, pendant longtemps, j'ai rien dit. Maintenant, il est temps de le dire puisque je suis censée transmettre.
En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, Geneviève Fraisse a écrit un livre, Muse de la raison, la démocratie exclusive et la différence des sexes. Ça a été réédité en 95 avec un autre sous-titre par Gallimard qui lui a imposé. D'ailleurs, son premier éditeur, l'Alinéa, lui a aussi imposé quelques coupes parce que ça cadrait pas trop avec l'esprit « Vive la Révolution ». Elle y expliquait entre autres comment des révolutionnaires chantres de l'égalitarisme prônaient en même temps l'exclusion des femmes de la vie publique. C'était le cas de Sylvain Maréchal par exemple, républicain, défenseur absolu de l'égalité, qui voulait qu'on interdise aux femmes d'apprendre à lire. Elle explique d'ailleurs que c'est souvent les plus radicaux, les plus révolutionnaires qui ont pu s'arc-bouter contre une réelle égalité pour les femmes et les hommes, car ils savent ce qu'égalité veut dire. Vous êtes d'ailleurs rentrée, pas par effraction, mais par une porte un petit peu dérobée en politique. C'est en 1997, avec le gouvernement Jospin, qui fait appel à vous en plein débat sur la parité, pour être déléguée interministérielle aux droits des femmes. Pourquoi est-ce que vous acceptez ce rôle que, si je ne me trompe pas, vous avez refusé peut-être dans un premier temps?
Je l'ai refusé dans un premier temps, de la même que je refuserais aussi. Je l'ai refusé en premier temps, d'abord parce que j'étais en train de finir un livre qui s'appelle « Les deux gouvernements », d'une part, et puis d'autre part parce que j'avais une vie de chercheuse à temps plein.
Passionnante,
qui me convenait parfaitement, c'est ce que j'avais rêvé de faire et c'est ce que je faisais, donc je n'avais aucun manque, ni aucun désir de faire de la politique.
Ce que les gens ont du mal à croire.
Ce que personne ne croit, n'ayant jamais appartenu à un parti politique, ni avant, ni pendant, ni après, comme je dis maintenant, pour faire simple et court. Mais j'ai accepté. Alors je raconte toujours que c'est vrai que c'est ma fille adolescente qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « t'as dit non, mais ça va pas, tu peux pas dire non, t'as pas le droit de dire non ». Et qui m'a vraiment, vraiment fait réfléchir, et elle avait totalement raison. C'est-à-dire que puisque j'étais passée, Je le dis brièvement dans mon introduction au livre du consentement et ailleurs dans d'autres textes, je crois. Mais puisque j'étais passée finalement de mon entrée dans le MLF, dans le mouvement des femmes, bon, à côté de mes études de philosophie ou de jeune prof de philo, oui. Mais en même temps, j'étais passée de la pratique à la théorie. C'est-à-dire, je voulais penser.
C'est l'action qui a amené votre pensée.
Je suis rentrée au CNRS quand même sur les fondements philosophiques du discours féministe. Alors que j'avais une de mes naissances, c'est avec le mouvement de libération des femmes. Donc j'étais passée de la pratique à la théorie. Pourquoi ils sont venus me chercher? Parce que j'avais écrit Muse de la raison et d'autres textes qui vont avec. Donc après, ils sont venus me chercher parce qu'ils cherchaient quelqu'un, ils ne trouvaient pas. Moi, j'ai donné des noms pendant 2 mois à une amie qui était dans les services ministériels. Elle me disait, on ne trouve pas. Je dis, mais tu as demandé un tel et un tel. Mais je pensais, j'avais pas une seconde l'idée que ça me tomberait dessus. Et après, je me suis dit, je ne peux pas dire non. Avec ce que j'ai fait, parce que justement, puisque je suis passée de la pratique à la théorie, là, s'il faut passer de la théorie à la pratique,
mettre
j'ai
les
pas
mains
le choix.
Un peu dans le cambouis.
Non, 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 parce que ça, c'est moral, ce que vous êtes en train de dire là. Je n'ai jamais de raisonnement moral. Donc ça, c'est clair. Donc non, c'est logique. Et d'ailleurs, c'est ce que me dit ma fille. T'as pas le choix. Alors que, je veux dire, effectivement, son petit frère est encore à l'école primaire, etc. Enfin, que c'est difficile, qu'il va falloir trouver des organisations familiales complexes, ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais pas vous raconter ma vie privée.
Non, c'est aussi intéressant.
Faisait qu'il fallait tout réorganiser.
Ça me fait penser à ce que vous expliquez sur conciliation
et articulation.
Ouais,
j'aime bien. J'aime bien.
C'est entre la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ou articulation, et la conciliation
sont des opposés.
Ouais, c'est comme si on
et l'articulation c'est une addition.
Voilà.
Et j'étais en train d'écrire là-dessus les deux gouvernements justement quand on vient me chercher. Et après, je le ferai circuler dans les services administratifs du ministère le mot articulation, puisque j'étais précisément en train d'écrire là-dessus. Et c'est très drôle parce qu'après il y a une sociologue qui écrira. Oh, Le ministère, il veut plus du mot conciliation, il veut du mot articulation. Depuis, j'étais partie depuis lors, j'étais partie ailleurs. Et moi, j'étais morte de rire. Parce que c'était l'intello qui avait fait circuler ce mot-là, que j'ai retrouvé après autrement, d'ailleurs, au Parlement européen, puisque on parle de combine, c'est-à-dire de combiner, ou de balance, d'équilibre. D'équilibre, il y a beaucoup d'autres mots qui sont pratiqués par les autres pays que le mot conciliation.
Et moi, conciliation, ça donne vraiment l'idée qu'on va faire comme on peut, mais vraiment, c'est pas possible à la base, quoi.
Alors moi, je surveille, même 20 ans plus tard, je surveille encore les occurrences du mot conciliation. Dans les mails que je reçois ou les textes que je reçois aussi, je surveille toujours, ça m'amuse beaucoup.
Donc vous avez articulé votre vie familiale et votre vie de chercheuse et votre vie politique à ce moment-là.
Et d'écrivaine, surtout, aussi. Ouais. Et puis après, quand ils me prennent moi, ils se trompent. Parce qu'ils croient que je vais être comme ça, une potiche. Mais non, si j'y vais, c'est pas l'histoire du cambouis, mais c'est l'histoire de je vais travailler, c'est tout.
Par contre, vous avez toujours été une figure de passage, c'est-à-dire que les gens savaient que vous alliez pas rester.
Ils savaient pas tous, non. Ah ben non, ils savaient pas. Vous savez pourquoi ? Mais non, ils savaient pas.
Parce qu'ils imaginent pas qu'on puisse ne pas vouloir.
Les hommes pensaient que j'allais pas quand même perdre les privilèges que j'avais acquis, et les femmes pensaient. Je le raconte à la fin du texte que j'ai fait, bilan qui s'appelle Touriste en démocratie, détournant une phrase de Berlusconi, c'est que les hommes disaient puisque t'es rentré dans le club, t'y restes. Et les femmes disaient, puisque t'es allée au front, t'y restes. Donc pour les femmes, j'étais allée au front, et pour les hommes, j'étais rentrée dans le club. Donc ils comprenaient pas pourquoi je disais vivement. Non, c'est...
Et d'ailleurs, c'est un truc que vous avez dit...
Ça, c'est un truc, mais c'est très important à dire et à redire. Parce que quand à la radio, j'entends qu'on parle des sociétés civiles, des gens qu'on prend sur les listes de sociétés civiles, donc depuis cette vingtaine d'années où j'ai fait ça, puisque c'était 97-2004. Mais personne ne pense qu'on fait ça comme tout le monde pourrait le faire. Vous qui êtes ici, c'est-à-dire un service politique. C'est-à-dire, voilà, comme citoyen, il y a un moment où on va dans les institutions faire ce travail-là, puis on retourne après à ce qu'on aime, cultiver la vigne ou enseigner les enfants, ou je ne sais quoi. Moi, c'était être dans mon bureau à faire de la recherche, ou en bibliothèque, ou bien ailleurs. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est une évidence, et cette évidence, je ne l'ai jamais vue reprise. Et quand on parle des sociétés civiles, c'est nécessairement en confusion avec le plaisir de devenir quelqu'un d'important ou un personnage médiatique, etc. Moi, ça m'a toujours étonnée que, enfin, l'expérience que j'ai vécue, qu'elle soit aussi peu visible, parce que je pense qu'il y en a d'autres que moi.
Justement, c'est ce que je voulais vous demander.
Au Parlement européen, oui.
Est-ce que ça ne vous a pas désespéré du politique, cette expérience ?
Pourquoi non ? Parce que c'est précisément le contraire. Je trouve que j'ai fait des choses.
Et que c'est possible.
Oui, je trouve que j'ai fait des choses. J'ai pas perdu mon temps, je peux dire ce que j'ai fait. Là encore, c'est dans mes archives. Ou les archives. J'ai bien sûr que j'ai fait des choses. Et notamment des rapports d'initiative, j'étais pas obligée d'en faire, etc., etc. C'est pour ça que ça m'énerve quand on me dit, oh, il paraît que tu étais vraiment présente. Il paraît que tu y allais. Je me dis, et c'est un copain, et c'est des gens qui sont d'un même bord intellectuel et culturel et politique, mais eux, c'est déjà beaucoup si j'y suis allée. Non, ce qui est affligeant, c'est la représentation qu'on a. Mais c'est pas, une fois qu'on y est, on peut faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai vu, vous savez, c'est comme dans tous les métiers. Il y a 80% des gens qui bossent et puis 20% des gens qui bossent pas. C'est pareil. Donc là, c'est comme dans tous les métiers. Qu'il y ait des flagorneurs et des lâches, des ceci, c'est partout pareil. En politique comme ailleurs. Il y a plein de gens qui travaillent, hein. Il n'y a pas que ceux qui mangent du homard etc.
Parlons-en, en sautant les étapes.
Je savais que vous vouliez en parler.
Et le temps. Ça me fait penser à cette histoire d'impensé parce qu'on le disait là, il y a quelques minutes en disant ils n'ont même pas pensé. Ils sont allés voir parce qu'ils étaient face à une polémique, le gouvernement Jospin, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le gouvernement. Parce qu'ils n'ont même pas pensé qu'il y en ait. Ça rejoint un petit peu le fait que la présence des femmes a longtemps été tout simplement un impensé. Ça me fait penser à une réflexion que vous avez eue sur l'affaire Fillon, sur les emplois fictifs de sa femme, où vous disiez que les Fillon c'était un petit peu trompé d'époque.
Oui, c'est le blog je participais au blog Libération de Philo à Libération il y a quelques années, et j'avais fait un papier sur l'affaire Fillon quand même, parce que c'est l'idée, c'est ça, que les femmes participent, mais comment ? On a beau être au 21e siècle, on se croit quelques siècles auparavant. Sur la question des femmes, c'est un vrai sujet de fond philosophique, c'est comment ça ne fait pas histoire. C'est-à-dire comment ça reste hors du temps. Et l'affaire Fillon, c'est une histoire hors du temps. Bah oui, mais bah ma femme elle m'aidait. Bah oui, bien sûr. Et alors c'est ce qu'on appelle l'influence. Et moi j'ai dans ce papier du blog qui est donc repris dans Féminisme et philosophie, je reprends des textes que je connais bien où on a théorisé la notion d'influence et même théorisé ce qu'on appelle le dédommagement des femmes puisqu'elles ne sont pas politiques, même avant qu'elles soient citoyennes et même avant la Révolution française, on a pensé que l'influence c'était un dédommagement qu'on offrait aux femmes.
Comme vous n'avez pas le droit de participer réellement à la politique.
Directement, mais vous êtes dans la médiation. L'influence, c'est une question de médiation. Et après, on le retrouve en République aussi, avant la citoyenneté des femmes. Donc, j'ai voulu dire simplement, c'est un exemple de ce que je peux faire comme travail dit philosophique.
Entre l'actualité.
C'est-à-dire de chercher le concept. Quel est le concept qui s'applique à l'actualité ? Là, c'était le concept, la théorie de l'influence des femmes.
Mais d'autres affaires se sont succédées depuis. On mesure que les filles ne sont pas les seules à s'être trompées d'époque. L'affaire de Rugy, c'est ma femme qui aime le homard, c'est pas moi, moi j'aime pas ça. L'affaire Jean-Paul Delevoye, c'est ma femme qui s'occupe de l'administratif et en plus.
Mais par exemple, si vous prenez l'affaire Delevoye, en plus où on nous explique très gentiment que les femmes vont être les gagnantes et pas les perdantes de la réforme des retraites. Gagnantes, perdantes. Et puis le voilà qui explique que c'est pas de sa faute s'il a mal fait sa déclaration de biens, etc., puisque c'est sa femme qui a fait la déclaration. Puis là, déjà, là, on est en plein gouvernement domestique. Hein. L'égalité familiale dont je parlais de la fin du XXe siècle, elle a sauté là, elle n'existe pas, même en 2019. Et il ajoute, et c'est elle qui s'est trompée. Mais franchement, c'est violent, pour pas employer d'autres termes. C'est violent parce que, un, c'est pas moi qui fais le boulot, c'est ma femme. Moi, j'ai de la phobie administrative, comme on va dire encore un autre élu.
Je suis très fort quand il s'agit d'affaires publiques, mais quand c'est
de dire
privé.
Que les retraites vont être formidables pour les femmes, mais il sait même pas ce que c'est qu'une femme qui travaille aujourd'hui. Donc elle est à la maison, elle fait les papiers, et surtout, c'est là où c'est la honte qui arrive, c'est à ce moment-là. D'abord, ça, c'est pas du tout... une pensée contemporaine, mais en plus il ajoute, et c'est la honte, elle travaille mal à la Mafelt. Et c'est là où je me suis dit, mais je rêve. Et après il dira que les femmes vont gagner à cette réforme, mais il ne connaît rien à la vie des femmes pour en être là. Vous voyez, et où est l'historicité, donc, qui est ce que je veux défendre, moi, comme idée profonde, c'est-à-dire sortir du hors du temps. Mais que ça soit aussi la galanterie à la française, c'est hors du temps. Stop, arrêtez de dénoncer les hommes
de tout temps.
La galanterie en France l'a emporté et c'est formidable. C'est le de tout temps que nous, professeurs de philosophie, avons dit à nos élèves, arrêtez de dire de tout temps quand vous commencez une copie. Eh bien là, moi, les opposants au féminisme disent de tout temps. Ils disent pas autre chose. Et c'est là où j'ai le plus grand objet, l'enjeu philosophique le plus fort. Et il y a l'affaire de Levoix dont on parle à l'instant. Lui, il est hors du temps quand il parle de sa femme comme ça. Alors effectivement, de Fillon à Delevoye, c'est déprimant ou bien on rigole. C'est au choix.
Un petit peu des deux.
Un petit peu des deux parce qu'on n'a pas le choix. Si on rigole pas, c'est
foncièrement déprimant.
C'est trop dur.
Mais oui, vous le dites très bien que c'est votre... C'est votre guide de pensée, cette historicité ou en tout cas.
C'est mon enjeu philosophique, point. Et que je traque à chaque moment. Si vous l'aimez là, par exemple, avec le consentement de l'affaire Springera, donc où elle est Vanessa Springera, pareil, là, les mœurs étaient différentes en 70. Donc c'est les mœurs, c'est une question morale. D'abord, les féministes des années 70 dont je suis, nous étions très ennuyés par ces affaires de pédophilie. On s'en souvient. Quand on se voit entre nous en ce moment, qu'on se croise, on se dit, tu te souviens? Mais le rapport de force n'était pas en notre faveur. Donc, et pourquoi personne raconte ça? Donc, on était des actrices politiques qui disions, non, cette pédophilie ne nous plaît pas. Et notamment, Matzneff, on l'avait bien repéré à l'époque, déjà. Mais on n'était pas dans le bon rapport de force. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est quand on dit, oui, les mœurs étaient différentes. Mais non. Moi, ce que je vois, c'est, si son livre s'appelle Le Consentement, sauf que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Du Consentement, mais ça, 2007, c'était en 2007, ouais. Repris en 2017, la même semaine que MeToo, avec un épilogue et le refus de consentir. J'y tiens. Écrit en mai 2017. Et là-dessus, la question qui est posée, c'est celle, y a-t-il une égalité entre une adolescente et un homme mûr. La question, on retombe sur la question politique. Il y a une question politique qui est posée. Parce que, Vous avez noté quand même que une gamine, si elle est violée par Polanski, elle savait ce qu'elle faisait, donc c'est pas grave. Si elle est, donc ça serait pas grave non plus. Mais si une gamine de 16 ans, qui n'est pas vraiment une gamine de 16 ans, Greta Thunberg, pense le monde, là, c'est une gamine.
C'est un enfant.
Donc, on est enfant si on fait de la politique, mais on est adulte si c'est pour se faire sauter. Pour parler brutalement. Donc, vous avouerez quand même qu'il y a quelques contradictions quant à ce que c'est que l'autonomie de la raison des femmes, la pensée de la raison des femmes et une égalité des sexes. Donc voilà, ça, ce sont des choses importantes.
À propos du mot consentement, Geneviève Fraisse ne l'aime pas trop, justement à cause de toutes les zones grises dont on parle beaucoup et qu'il implique. Elle prend l'exemple de femmes qui, sous la menace d'être tuées, consentent à être violées. Elle aimerait qu'on remplace le mot consentement par le mot accord. J'en profite donc pour faire passer ce message sémantique. Il y a une question qui prend énormément de place dans les débats féministes depuis à peu près toujours, beaucoup en ce moment quand même aussi. Vous êtes passé rapidement tout à l'heure dessus, sur l'essentialisme, sur les différences. C'est quelque chose qui vous intéresse pas, ou en tout cas sur le, vous voulez avoir un, vous placer
c'est pas la bonne question.
C'est pas la bonne question.
C'est-à-dire, alors cette question-là, évidemment, elle s'appelait universalisme et différentialisme quand j'avais 20 ans. Elle s'appelle aujourd'hui binarité, etc. Et moi, j'ai dit, en 90, donc il y a maintenant quand même longtemps, que c'était une catégorie vide. C'est une catégorie.
Ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que je ne la remplis ni des hommes et des femmes, ni du masculin et du féminin. En même temps, je peux être polémique. Quand j'ai fait ce livre qui s'appelle Les excès du genre en 2014, qui est un livre polémique, parce que j'en avais marre qu'on vienne m'interviewer, que vous aujourd'hui, alors vous pensez quoi des femmes, vous pensez quoi des études de genre, vous pensez quoi des stéréotypes, etc. Je me suis dit, bon, je vais l'écrire, comme ça va simplifier les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un peu la synthèse de ce que je pensais depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si vous voulez, le terme de genre qui est venu comme un concept important, en même temps, il continue à vivre dans la confusion. C'est pour ça que j'appelle ça une promesse conceptuelle, et non pas un concept qui est avéré. Pourquoi une promesse conceptuelle ? Parce que on dit le genre, et on a raison si on veut en faire un concept, puis quand on se met à dire dans la conversation les genres, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir deux possibilités, soit le masculin-féminin, ou le homme-femme, et vous retombez du point de départ que vous avez voulu abandonner, à savoir les hommes et les femmes, la binarité, etc., ou vous allez choisir le multiple, parce qu'il y a les genres, mais dans ce cas, c'est effectivement, il y a maintenant, je ne sais plus combien de genres possibles, penser, imaginer, et why not, moi je suis pour, ce que j'appelle le multiple, moi je préfère la matrice un multiple que...
Un versus un,
un versus deux, etc. Mais ça ne rend pas les choses faciles, parce qu'on remet du contenu, là on voulait l'enlever pour en faire un terme abstrait. Donc, on est encore dans cette période d'incertitude et de difficultés conceptuelles. Voilà. Alors.
Qui se heurte à beaucoup de contradictions.
Donc, Et moi, je préfère habiter la contradiction, comme je dis, dire les contradictions, que de dire, ça y est, on a la solution. On supprime les deux sexes, on met le mot genre, etc. Mais attendez, moi, je regarde ce que ça donne. Je peux pas me contenter de brandir des solutions vite fait. Ça marche pas comme ça. Donc, ok, c'est une promesse conceptuelle, j'attends la suite. Mais on voit bien que c'est extrêmement complexe, parce que, regardez, on met au même niveau en ce moment la possibilité, effectivement, de dissoudre la binarité, donc le genre, les genres, le multiple, le 1 et le multiple, etc. Et en même temps, on fait l'écriture inclusive.
Donc on
remet du 2. Moi, je suis pour les deux, mais c'est totalement contradictoire. Voilà. Alors maintenant, on se met autour de la table comme nous sommes et on pose les papiers sur et on discute.
Et est-ce qu'on pourrait pas créer une sorte de concept qui permettrait aux deux d'exister simultanément sans être contradictoires ?
Mais il faut, comme je dis, habiter la contradiction. C'est le titre de mon dernier chapitre d'À côté du genre, c'est habiter la contradiction. Oui, nous sommes dans des contradictions, mais je préfère vivre avec des contradictions. Par exemple, j'avais dit à un moment aussi sur universelle différence, là, qui étaient donc les formules. Je disais que c'était des gros mots, d'une part, et que je n'employais pas ces gros mots, parce qu'on disait, vous êtes différentialiste, vous êtes universaliste. Je n'emploie pas ces mots-là. Et je me souviens intituler un texte, il y a encore, c'était dans les années 90, Le jeu aporétique. C'est-à-dire, c'est une aporie.
Une aporie, c'est
une question sans réponse.
Une question où il n'y a pas de réponse.
Une question sans réponse, c'est une aporie. Donc voilà, c'est une aporie. l'universel différence. Donc moi, je ne m'intéresse pas à ça, puisque j'ai pas envie de définir ce que sont les sexes, le genre, la différence, l'universel, etc. J'ai envie de voir comment ça fonctionne.
Vous êtes toujours en train de travailler, toujours en train de réfléchir, toujours en train de creuser.
En alerte.
Et vous colportez en même temps. Vous êtes une colporteuse. Est-ce que la colportation, est-ce que c'est un mot qu'on pourrait utiliser?
Le colportage. Non, mais en fait, ce que je dis dans le texte de la colporteuse, c'est un texte que j'avais fait pour un grand colloque de sociologie. On m'avait demandé de faire un des... Je pense que j'avais besoin d'une féministe de service. Comme je dis, je suis un peu acide, mais parfois, il faut l'être. Et j'avais dit que, dans les années 2000, j'étais fantassin. J'ai beaucoup cru, et ça renvoie peut-être à ce qu'on disait au début, au collectif. Parce que c'est peut-être ce que j'ai gardé de mon enfance. C'est la question du collectif, c'est pas la question du bonheur, de la chrétienté, du personnel, je sais pas quoi. Peut-être l'idée du collectif. Et dans ce collectif, le mouvement des femmes a été... Moi, je n'ai pas arrêté d'être dans des collectifs jusque dans les années 2000. Je n'ai pas arrêté. Que ça soit avec le MLF, que ça soit avec les philosophes, que ça soit avec une revue ou avec une autre revue ou avec les historiennes, etc. Donc j'étais un fantassin dans le collectif et j'aime l'horizontalité. J'aime pas les pyramides de pouvoir.
Et là, vous êtes devenue une colporteuse avec un petit baluchon.
Non, mais je pense que là, à partir des années 2000, j'ai cessé d'être dans les collectifs, qu'avec le travail avançant, plus un parcours de vie assez particulier, ces histoires politiques, etc., je suis partie seule sur les routes, mélangeant la recherche et ce à quoi on m'avait conviée. Ça m'a pris quand même 7 ans. Et du coup, et puis voyageant quand même aussi, assez. Et du coup, alors il y a un autre aspect dans le mot colporteuse qui est polémique. Donc j'ai cessé d'être fantassin et je suis devenue colporteuse, c'est-à-dire seule sur les routes. Alors après, dans ce texte, je déploie comment j'ai la lanterne magique dans le sac à dos, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire d'un peu précis avec la colporteuse. Mais il y a aussi un aspect polémique dans le mot colporteuse auquel je tiens. C'est pour dire que vis-à-vis de du problème que nous avons, et à juste titre, de savoir comment l'Europe et le monde occidental a dominé le monde, colonisé le monde, et peut-être pas pris la mesure de tout ce qu'ils avaient fait, etc. Et que du coup, l'universel, c'était pas bien parce que c'était de la colonisation. Moi, ce que j'ai remarqué avec les objets que j'ai travaillés, et le service domestique en est le meilleur exemple qui soit, et c'est donc mon premier livre en 79, c'est que la notion du service domestique face à la démocratie, donc la hiérarchie des femmes, ou la hiérarchie des emplois, mais surtout entre femmes, donc vis-à-vis du féminisme, ça pose un problème, la hiérarchie entre femmes, vis-à-vis de la question démocratique, qui est une question d'horizontalité, d'égalité, eh bien, là, il y avait un problème. Donc, je l'ai appelé « service domestique ». À l'époque, tout le monde me disait « ton livre sur le travail domestique, ton livre sur les domestiques ». Je disais non, « service ». Et là, alors, par rapport à la colporteuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est bien évident, que la question du service domestique, elle se pose dans le monde entier. Quand vous avez tel pays d'Amérique latine qui envoie des domestiques dans tel autre pays d'Amérique latine, quand vous avez des Philippines qui partent au Moyen-Orient, etc., la question service et démocratie se pose. C'est ça la colporteuse. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé des idées, des concepts, des mots qui me permettent de voyager de par le monde, d'aller dans les pays du Maghreb aussi, où je suis souvent allée, avec ces mots-là. Et la question du service, c'est un lieu de lecture de l'ensemble de la société. Les écrivains du 18e de Marivaux à Beaumarchais nous l'ont bien expliqué quand même. Je veux dire, c'est un regard très particulier, la question de la domesticité, sur le monde qui entoure. Donc, c'est pas seulement Hegel qui dit qu'il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. Il y a aussi... à partir de là, on peut...
Vos concepts
et se balader avec. Et moi, je me balade avec sans position de surplomb. Je dis, voilà, je vous ouvre mon sac à dos. Il y a ce mot-là, qu'est-ce que vous pouvez en faire quelque chose ou pas? Et la démocratie exclusive, vous savez, quand il y a eu les révolutions arabes, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Quand elles ont vu qu'on allait leur enlever le statut personnel et les renvoyer à la complémentarité des sexes, elles se sont levées en bataille, etc. Et il se trouve que moi, j'étais en contact avec elles et que j'ai vu mes textes de Muse de la raison de la démocratie exclusive utilisés dans les débats sur ce qui se passait en Tunisie. Mais ça, c'est un cadeau pour moi. Ça veut dire que la colporteuse, elle a pu donner un truc utile ailleurs, on ne sait pas où.
Vous laissez des outils alors aussi. Vous partez, vous baladez avec vos concepts.
Ce que je sais, c'est que je suis sur la route. Après, je reviens chez moi.
en ayant laissé quelques outils ici. Là. Mais c'est comme ça que vous voyez la transmission. C'est...
Alors, cette question de la transmission, c'est drôle que vous me la posiez.
Mais oui, parce qu'on a commencé avec ça.
Je me la suis posée très récemment, il y a quelques années à peine. Maintenant, on commence, compte tenu sans doute de la génération, de l'âge, et tout ce que vous voulez, à propos de transmission et d'âge. Vous savez que, puisqu'on parlait du baby-boom tout à l'heure, la presse, je l'ai encore vu une fois, encore récemment, les baby-boom, vous savez comment on les appelle, les gens de ma génération ?
Oui, OK, boomer.
Il y a ça, mais aussi il y a les papy-boomers, parce qu'il n'y a pas de mamie-boomeuse pour la retraite. Vous ne savez pas qu'on n'avait pas travaillé ?
C'est pas vrai,
c'est arrivé deux fois, en titre de Libé il y a 2 ans, et chez un économiste à la radio...
Les papy-boomers, sans les mamies-boomers.
Les papy-boomers, elles sont où les mamies ? Elles n'ont pas travaillé ? C'est extraordinaire. Moi, je suis rentrée dans la fonction publique.
En plus, pour le coup, c'est vraiment la génération des femmes qui...
Bah, moi, je suis rentrée dans la fonction publique en 68, parce que j'avais les IPES et que j'ai réussi ce concours. Et donc, non, mais c'est extraordinaire. Donc, on n'est même pas sûrs, nous, d'être considérés. Alors, la question de la transmission, si je fais ce petit détour, c'est parce que du coup, figurez-vous, on ne s'était pas posé parce que... Alors je finirai peut-être sur la chance d'être baby-boomer alors que j'avais commencé autrement. C'est que on s'est pas rendu compte du temps qui passait. Moi j'avais toujours quelque chose à faire. Et donc on se demandait pas comment. En plus j'ai pas voulu enseigner, donc même si j'ai dirigé des travaux, siégé ici ou là bien sûr, et même enseigné aussi quand même un peu, et fait beaucoup de conférences et de séminaires, etc. Mais la transmission j'y ai jamais pensé. J'y pense très récemment.
Mais vous y avez quand même forcément un peu pensé, puisque vous, parce que c'est quand même un petit peu la base de votre travail. Alors je ne sais pas si vous
voyez
comme ça.
Non, je n'y ai pas pensé. Et même, bon, j'ai des enfants, etc. Et j'ai pas dit, il faut que je transmette ça. Il fallait faire, il fallait être, il fallait agir. Et il n'y avait pas l'idée de la transmission. Honnêtement, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, on me pose plein de questions sur la transmission. Donc, c'est la question de la mamie boumeuse.
Mais quand on est et qu'on agit nécessairement, mais on non, transmet quelque chose.
Non, mais je parle à voix haute. C'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi. Je vois bien qu'on me pose la question. Donc, je dis oui, bien sûr.
Vous nous avez dit, avant qu'on commence l'entretien, que vous aviez été très malade vers vos 40 ans, oui. Ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui a changé votre rapport à la vie ou à...
Ben, ça a changé. Ce que ça a
juste... À l'être, à l'agir.
Ce que j'ai changé, c'est qu'on a moins peur de vieillir.
Ouais. Oui. C'est cadeau, quoi, les années qui viennent sont c'est un peu ça.
Oui. Non, mais c'est sûr, c'était avant que oui, c'est ça. Après, quand on arrive à 50 ans et que j'ai vu des tas d'amis dire « Ah, j'ai 50 ans !» Je me suis dit « Chouette, j'ai 50 ans !» Et puis après, ça continue pareil, la maladie.
Mais ça change pas, en tout cas, et ça fait pas de rupture, parce que vous dites que vous avez toujours eu des choses à faire et
Ben non, mais écoutez, comme tout le monde, les traumas dans la vie, il y en a quand même quelques-uns.
Oui, tous.
Tout le monde en a, hein. Donc c'est... Non, là, vous partez dans des choses...
Très bien. Parce que ça amène ma dernière question, qui est la question rituelle, c'est est-ce que vous avez peur de mourir, Geneviève Fraisse ?
Non. Non, parce que j'entretiens avec la maladie un compagnonnage assez précis.
Régulier.
Très régulier et constant. Donc, je vis avec la maladie, ce qui s'appelle le cancer.
Ce compagnonnage, ça permet d'apprivoiser la mort ? De la regarder un petit peu en face. Je vous pose la question, parce que je pose beaucoup la question et que tout le monde me dit, personne me dit oui, j'ai peur de la mort, et je trouve ça quand même très étonnant.
Non, on n'a pas peur de la mort. Non, la seule chose que je peux me dire, j'ai encore des choses à faire, ou tiens, je voudrais encore faire écrire tel livre, ou lors de ma dernière alerte, qui est encore très récente. Je me suis dit, mais mon Dieu, il faut... Bon, alors, je peux dire les choses autrement. La suite de l'histoire aurait dû faire 500 pages, ça en fait 100 et quelques. Je l'ai écrit pendant une chimiothérapie.
Oui, donc il fallait faire vite.
Il fallait faire vite. Le temps de la chimio. Et c'était l'année dernière.
Ouais. Donc on voit pas, on voit pas le temps passer, il passe vite.
On voit pas le temps passer, donc... je sais pas, c'est plus intéressant de savoir qu'on a... quelque chose encore à faire que de se dire qu'on va disparaître. Après, la question qui peut se poser aussi quand on a des enfants et petits-enfants, comme moi, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc, c'est quelque chose, la mort, c'est quand on pense à la mort, c'est en rapport avec... Moi, j'ai besoin de faire des livres et d'autres ont besoin de moi. Donc, peut-être là, ce serait ça le rapport à la disparition ou à la fin de quelque chose. Après, moi, je suis athée.
Après avoir grandi, on l'a dit, dans un environnement très chrétien. Pas...
oui. Non, j'ai... Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question.
Je suis désolée.
Je ne m'attendais pas à parler de mes maladies répétées.
On peut...
Non, mais je cherche quelque chose qui pourrait... En fait, ce n'est pas le rapport à la mort, la question intéressante. C'est le rapport au corps. À son propre corps.
Effectivement, c'est le corollaire...
C'est le rapport à son propre corps. Comment, ce salaud, il me trahit? Il me trahit encore une fois? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce qu'il me raconte quelque chose que j'ai pas compris? Est-ce qu'il me raconte quelque chose? Moi, c'est plus... disons, puisque... Non, c'est, je parle pas de la mort, mais je parle de la maladie. Puisque j'en parle jamais, mais... Je la planque en général... Ou je la raconte après coup. Faut jamais la raconter pendant. Non, parce que les gens sont trop bêtes. Ouais. Maladroits. Mais après, on peut en parler. Et puis, oui, c'est, je suis en discussion avec ce corps-là.
C'est un ennemi, c'est un quelqu'un qu'on apprivoise.
C'est un ennemi, c'est un ami, c'est un compagnon, c'est quelqu'un qui veut nous surprendre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais.
Avec qui on a parfois oublié de discuter, du coup.
Oui, donc ça serait plutôt, si vous me posez cette question-là, ce serait plutôt, j'irais plutôt vers cette chose-là. C'est pas la première fois parce qu'on est surpris, la première fois qu'on est malade, mais après quand la maladie revient, en plus change de place, change de lieu dans le corps, etc. On commence à se demander ce qui fabrique celui-là.
Qui dit, ouais.
Ouais.
Et en tant que philosophe, du coup, la dualité corps-esprit, ça
Je suis très cartésienne.
C'est ça.
Je suis une malheureuse cartésienne.
Si, ce puisque corps je pense qui que, n'est pas moi
je
et
pense
qui
que
m'embête.
Pendant ces deux derniers siècles, on a beaucoup travaillé sur la raison des femmes. Moi-même, et j'ai intitulé un jour un recueil là-dessus, La raison des femmes. Et je pense que le 21e siècle sera la question du corps des femmes. Et c'est là-dessus que je suis depuis quelques livres et quelques travaux. Je pense que le 21e siècle, c'est la question du corps des femmes. Le corps reproducteur, le corps violenté, le corps de l'artiste. Enfin, y a, c'est moi je suis donc j'ai la cartésienne que je suis pour quitter les choses les zones trop personnelles et revenir aux choses essentielles. La question d'être passée de la raison au corps fait que je continue à être cartésienne malgré moi. Mais je pense que pour le féminisme, Descartes est très utile. Et pour terminer sur une chose que je disais beaucoup il y a longtemps, plus maintenant, enfin moins maintenant, c'est que si vous voulez le matérialisme du 18e qu'on a porté au nu, c'est formidable. Sauf que comme ça fait dépendre l'esprit du corps, le corps féminin, ils en ont profité tous. Je les prends tous en défaut, hein, éventuellement. Tandis que Descartes, avec la séparation du corps et de l'esprit, ça permet à un Poulain de la Barre, le philosophe qui écrit en 1673 sur l'égalité des sexes, et puisqu'on sépare le corps de l'esprit, ben on pourra avoir des corps différents et on sera égaux quand même. Donc le cartésianisme et l'idéalisme, dois-je ajouter, sont de meilleurs alliés du féminisme que le 18e siècle, qu'on voudrait plus subversif.
Mais c'est vrai que le 21e siècle, dans le féminisme, ça va porter sur le corps, c'est nécessairement, puisqu'avec tout ce qui se passe, même scientifiquement, etc., c'est la grande question qui arrive.
C'est la question. Elle est déjà arrivée.
Elle est là. François Héritier l'avait d'ailleurs bien cerné aussi. Pour terminer, est-ce que c'était mieux avant?
Geneviève Fraisse. Avant quoi?
Alors, par exemple, moi, je pense que le boulevard Saint-Germain, vous pensez que c'était mieux avant. Mais de manière générale, est-ce que c'était mieux avant?
Quoi, le quartier latin, les livres sont devenus des
fringues. Des fringues, des sapes. Non, mais c'est une question générique que vous pouvez prendre par le bout que vous voulez.
Non, je raisonne jamais en ces termes-là.
Non, c'est pas intéressant.
Aujourd'hui m'intéresse tout le temps.
aujourd'hui m'intéresse toujours. Un immense merci à Geneviève Fraisse pour son accueil et pour sa confiance. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Réalisation Aurore Meyer-Maillot. Mixage Laurie Galligani. Coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.